Bienvenue dans cette émission sur la fibromyalgie. Pendant une heure, vous entendrez parler de cette maladie encore trop méconnue et qui fait terriblement souffrir. Dans les studios, nous avons le plaisir d'accueillir Gaëlle, qui nous parlera de son fils Théodore, Janine, diagnostiquée très tardivement, et Ghislaine, vice-présidente de Fibromyalgie SOS. Et par téléphone, nous aurons le docteur Le Foulon. Maladie orpheline par extension, caractérisée par un état chronique de douleurs neuropathiques de jour comme de nuit, douleurs tendinomusculaires, troubles du sommeil, fatigabilité, épuisement, SFC, syndrome de fatigue chronique ou d'épuisement, troubles de la concentration et de la mémorisation, anxio-dépression réactionnelle, maladie pouvant engendrer un handicap réel. La fibromyalgie est un état clinique qui relève en priorité d'un dysfonctionnement central du système nerveux autonome et d'un dysfonctionnement du contrôle des douleurs. Ces dysfonctionnements sont souvent la conséquence, dans un contexte de terrain génétique, prédisposé de la décompensation d'un stress chronique d'origine psychologique ou physiologique subi sur une durée souvent longue et souvent de manière répétitive, non maîtrisé, non pris en charge, considéré comme banal au départ. En France, la fibromyalgie touche 2 à 3 millions de personnes. La maladie atteint essentiellement plus les femmes, très certainement à cause des hormones et de la masse musculaire différente, mais elle touche de plus en plus les hommes et les enfants. Pourquoi la journée du 12 mai? Née le 12 mai 1820 en Grande-Bretagne, Florence Nightingale devient infirmière à l'âge de 33 ans. En 1854, pendant la guerre de Crimée, elle coordonne un groupe d'infirmières chargées de soigner les soldats. En 1857, dès son retour, elle contracte une mystérieuse maladie qui l'oblige à garder le lit pendant de longues périodes. Elle a 37 ans et cette situation durera jusqu'à sa mort. On la disait atteinte de la fièvre de Crimée. Ce tableau clinique très invalidant a été interprété a posteriori comme une fibromyalgie. Malgré sa maladie, Florence Nightingale est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge internationale et elle a également fondé la première école d'infirmières. Florence Nightingale représente un symbole fort de résistance et de lutte contre la fibromyalgie. C'est pourquoi sa date de naissance, le 12 mai, marque la journée mondiale de la fibromyalgie. Gaëlle, bonjour.
Bonjour.
Votre fils Théodore a 14 ans et il lutte depuis combien d'années contre une maladie dont vous ne savez rien?
Là, ça va faire 5 ans exactement.
Quelle démarche avez-vous faite?
Ça a commencé par une démarche pour les migraines, exactement.
Oui.
Donc, dans une unité douleur d'un hôpital de Paris.
Oui.
Et du coup, il a été suivi pendant 3 ans pour les migraines. On n'a jamais voulu reconnaître que c'était des douleurs fibromyalgiques.
Mmh.
On a dû changer d'hôpital au bout de 3 ans pour qu'il soit suivi à un autre hôpital de Paris, qui l'a hospitalisé cette année, qui ont fait un bilan complet en lui disant qu'il ne savait pas ce qu'il avait, qu'il fallait le mettre dans un centre pour handicapés. Suite à ça, on a remonté un dossier dans un autre hôpital de Paris.
Mmh.
Et pour l'instant, on attend de savoir s'il est bien fibromyalgique ou non, ce que l'on nous dit à chaque fois.
Quels sont les médecins que vous avez vus et comment vous ont-ils reçu?
Alors, le premier médecin, donc, c'était à l'hôpital de Bicêtre.
Mmh.
Tout s'est bien passé pendant 2 ans pour le suivi des migraines. Par contre, elle ne voulait pas entendre, elle voulait parler que de douleurs chroniques et pas du tout de la fibromyalgie. Or, tous les autres médecins que l'on rencontrait, que ce soit pour la relaxation, la sophrologie, l'acupuncture, enfin tout ce qu'il a essayé, l'hypnose, etc., à chaque fois, on me disait qu'il était certainement atteint de la fibromyalgie. Et au bout de 2 ans, quand j'ai commencé à lui en parler, là, son comportement a complètement changé en disant que tout mère chez un enfant, en plus de sexe masculin, ce n'était pas possible. Donc, les relations se sont plus ou moins dégradées et on a décidé avec Théodore donc, de changer d'hôpital.
D'accord. Mmh. Quels symptômes Théodore a?
Alors, Théodore, il a une fatigue chronique.
Oui.
Il a des douleurs musculaires. Il a des problèmes aussi au niveau gastrique. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Par moment, il ne peut plus du tout marcher avec des œdèmes au niveau articulaire.
Je crois que Théodore ne peut plus aller à l'école depuis septembre dernier. Comment ont réagi les médecins et votre entourage?
Alors, au niveau des médecins, on m'a dit que ce n'était pas possible, qu'ils s'écoutaient trop et que la chaise roulante n'était pas bienvenue. Or, c'était vraiment pas possible. Moi, mon fils, il marchait à quatre pattes, il montait les escaliers 4 à 4 et on a bien dû reconnaître que c'était impossible qu'il marche. Donc, on a fait un aménagement scolaire au départ, pensant que ça allait vite s'arranger au bout d'un mois. Or, ça ne s'est pas arrangé, donc l'aménagement scolaire n'a pas pu se faire. On m'a dit de monter un dossier au niveau de la SAPAD pour avoir une aide à domicile. On m'a répondu au bout de 2 mois, quand le dossier est passé, que comme il était dans le secteur privé, il n'y avait plus d'aide. Donc, oui. Qu'il fallait, je rappelle, en janvier. Donc là, on était en novembre. Janvier, j'ai rappelé, on m'a dit qu'il n'y aurait toujours pas d'aide pour le secteur privé et qu'il fallait que je me débrouille.
Sympa.
Ouais, sympa.
Quelle maladie ont-ils trouvé à Théodore?
Quelle maladie?
Ouais.
Pour eux, c'est uniquement un migraineux, pur et simple, suite à un post-opératoire.
Pourtant, il a quand même des symptômes qui ressemblent à la fibromyalgie.
Oui, tout se ressemble à la fibromyalgie. Et le kiné qui le suit depuis maintenant 2005 me parle au moins de symptômes très proches de la fibromyalgie, si on ne met pas le mot de la fibromyalgie dessus.
D'accord. Comment va-t-il moralement et physiquement aujourd'hui?
Physiquement, il est vite épuisé. C'est un enfant qui ne peut pas avoir une activité de plus d'une heure.
Oui.
Qui demande beaucoup d'écoute, beaucoup de soins. Il dort beaucoup le matin, a du mal à s'endormir le soir. Au niveau concentration, il a beaucoup de mal.
Oui.
Donc là, il suit maintenant en se battant auprès du CNED, donc des cours par le CNED, ce qui est très dur pour lui aussi, parce qu'il y a des journées il peut, il y a d'autres jours il peut pas. Donc suivre le planning, c'est pas toujours évident. Et puis moralement, là, ça va quand même mieux, on va dire, puisqu'il remarche là depuis le mois de février.
D'accord. Je crois que vous le suivez partout et que vous avez une relation fusionnelle. Est-ce toujours facile pour vous?
Non, c'est pas toujours facile, mais je me dis que si la maman est pas là, qu'est-ce qu'on fait?
Oui.
Vu qu'il n'a déjà pas l'écoute ni des médecins, ni du niveau scolaire, même si je peux pas dire que l'école est là, mais elle ne peut rien faire puisqu'elle ne peut pas l'accepter dans son état.
D'accord. Et justement, est-ce que c'est toujours facile pour une maman de le voir souffrir son enfant?
Non, ce qui est vraiment le plus dur, c'est ça, c'est que, en fin de compte, je suis impuissante face à sa maladie, à ses douleurs, puisqu'il n'y a aucun médicament qui le soulage, puisqu'il fait des effets secondaires surtout, et que je suis vraiment sa seule écoute et son seul, je dirais, sa seule épaule, en fin de compte.
D'accord. Nous vous souhaitons beaucoup de courage, Gaëlle, à votre fils et à vous. Merci pour votre témoignage et nous allons faire une première pause musicale. Excusez-moi aussi pour les fibromyalgiques qui écoutent la radio. Il n'y aura pas Damien Dessen aujourd'hui pour cause de problèmes de CD. Donc je suis désolée, vous ne pourrez pas l'écouter. Voilà, première pause musicale. Écoutez RVVS sur le 96.2 FM ou www.rvvs.fr. Nous sommes dans une émission sur la fibromyalgie avec Janine, Gaëlle et Gisèle Baron. Bonjour Janine.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire comment vous avez su que vous étiez atteinte de fibromyalgie?
Alors moi j'ai découvert ça à la suite d'un article que je lisais dans un magazine en attendant d'être reçue par le médecin. Parce que ça faisait des années que je souffrais, mais j'étais plutôt considérée comme, malade imaginaire, cassant plutôt les pieds au médecin. Et donc, je suis rentrée dans le cabinet du médecin, je lui ai posé le magazine et j'ai dit, voilà, moi je pense que j'ai ça, parce que tous les symptômes qui sont indiqués me correspondent.
Et comment a réagi ce médecin?
Eh bien, jusqu'à l'année dernière, pour lui, je n'étais pas fibromyalgique.
Est-ce qu'un médecin, justement, a dit que vous aviez cette maladie?
pas réellement. Je l'ai vu écrit, mais dit très clairement et très nettement non à cause de mon âge. Parce que comme ça a été découvert, j'avais plus de 60 ans. Donc ce n'était pas possible qu'à cet âge-là, on ait cette maladie-là.
Quels symptômes avez-vous ?
Alors, moi, j'ai de très, très, très gros troubles du sommeil. Maintenant, je commence à avoir des troubles au niveau de la mémorisation, mais je lis ça plutôt à la vieillesse, bien que je ne me sente pas vieille du tout. En plus, j'ai mal aussi bien au niveau musculaire que maintenant, curieusement, j'ai mal dans les os, que je n'avais pas mal avant.
Depuis combien de temps souffrez-vous de cette maladie ?
Oh, depuis très, très, très longtemps.
Comment s'est-elle déclenchée ?
J'avoue que je ne saurais pas trop dire exactement, parce que c'est venu tellement insidieusement que j'ai l'impression que j'ai toujours eu mal, de toute façon, au moins depuis l'âge de 14 ans.
Quelle en a été la cause ?
Ça, je ne sais rien.
Vous ne savez pas qui est-ce qui a déclenché cette douleur ?
Alors, la plus jeune, non, mais après avoir lu un certain nombre d'articles, je suppose que les difficultés relationnelles avec mes parents, avec ma mère surtout, plus ensuite les très gros problèmes conjugaux, n'ont rien arrangé du tout.
Arrivez-vous, malgré vos douleurs, à vous faire plaisir ?
Je ne pense jamais au mot plaisir. Je fais les choses comme elles doivent être faites. Donc, oui, des moments, effectivement, quand j'entends notamment les oiseaux chanter et que je suis dehors avec un beau paysage, oui, c'est vraiment agréable.
Merci Janine pour votre témoignage. Nous allons faire une deuxième pause musicale et après nous entendrons le docteur Le Foulon. Alors la pause musicale c'est Wonderwall de Oasis. 10.2 FM, www.rvvs.fr. Nous avons le docteur Le Foulon qui va nous parler de la fibromyalgie. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Comment arrivez-vous à diagnostiquer une fibromyalgie chez un patient ?
Alors, ça reste un diagnostic difficile.
Oui.
Et d'ailleurs, ça reste une entité, comme on dit dans notre langage nosologique,
oui.
Contestée. Hein. Il y a un certain nombre de médecins pensent que cette entité nosologique, c'est-à-dire cette maladie, n'est pas une maladie clairement identifiée. Donc c'est pas un diagnostic très très facile à faire, c'est souvent un diagnostic d'élimination lorsque l'on a éliminé un certain nombre d'autres pathologies. Donc et que l'on devant des douleurs musculaires, des douleurs articulaires multiples, variées, polymorphes et évoluant dans le temps, on porte le diagnostic de fibromyalgie.
D'accord. Comment le recevez-vous ? Parce qu'il y a des médecins, en fait, quand on y va pour une fibromyalgie, ils nous reçoivent mal. Vous, de quelle manière le recevez-vous quand...
Alors, ça, que des médecins vous reçoivent mal, je suis surpris. Enfin, je suis un peu étonné. je pense qu'en général, les patients sont bien reçus dans les cabinets médicaux. Enfin, je l'espère, en tout cas. En tout cas, moi, je pense les recevoir avec tous les gars et toute l'attention que je me dois au titre de mon métier. Hein. Mon métier, c'est d'abord d'écouter les gens et d'essayer d'apporter une réponse à leurs plaintes. Donc j'y apporte le maximum d'attention et j'essaye de répondre à leurs demandes, essaye de les soulager. Ça, je pense que ça fait partie de notre métier.
Tout à fait.
Et que notre serment d'Hippocrate, c'est avant tout de soulager les gens et les patients.
D'accord. Êtes-vous comme certains médecins qui pensent que la fibromyalgie est une maladie psychologique, pardon ?
Alors, là aussi, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une entité nosologique qui est contestée, qu'on n'arrive pas à très bien définir. C'est souvent un diagnostic d'élimination après avoir éliminé un certain nombre d'autres diagnostics. Est-ce que c'est une maladie psychologique ? Je pense que c'est difficile à dire. En tout cas, il y a une forte participation psychologique à cette maladie, c'est clair. Il y a le psychisme du patient est très important dans ce type de maladie et il est en général très caractéristique de cette pathologie. Donc il y a une forte participation psychologique à cette maladie.
D'accord. Êtes-vous pour la prise en charge non médicamenteuse ?
C'est pas pour ou contre la participation non médicamenteuse. Le soutien psychologique, la prise en charge psychologique font partie du traitement de cette pathologie au même titre que le traitement médicamenteux. C'est le traitement est à plusieurs détentes et il y a un traitement médicamenteux bien sûr. Il y a un traitement aussi de soutien psychologique et de prise en charge psychologique de ces patients qui est très important. Je dirais même qui est primordial.
Oui, tout à fait. Vous savez où en sont les recherches ?
Les recherches sur cette... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un point sur lequel la recherche s'appesantit. Je pense que le corps médical a d'autres sujets de recherche plus prioritaires. Non, j'ai du mal à évaluer où on en est sur les recherches sur la fibromyalgie. Je pense que la recherche est un peu au ralenti dans ce domaine-là.
Tout à fait. Ne pensez-vous pas qu'il y a encore une mauvaise connaissance de la part du corps médical ?
Je ne sais pas, une mauvaise connaissance, madame.
Oui.
C'est surtout, je l'ai dit en préambule, c'est surtout une entité nosologique qui n'est pas très claire et qui est contestée parmi un certain nombre de médecins. Donc c'est le corps médical, lui, n'a pas clairement défini cette pathologie et il n'y a pas un consensus pour classer cette maladie. Donc ce n'est pas encore une fois un rejet du corps médical, c'est simplement que le corps médical ne s'entend pas de façon claire pour classer cette maladie.
D'accord. Mais en tout cas, je vous remercie, docteur Le Foulon, d'avoir répondu à nos questions.
De rien, madame, c'était avec plaisir.
Ben, merci beaucoup, en tout cas.
Merci,
je vous souhaite
bonne
une bonne journée. Au revoir.
Au revoir, madame.
Nous allons faire une troisième pause musicale avec Brevs 96.2 FM, www.rvvs.fr. Nous sommes avec une émission sur la fibromyalgie. Bonjour, Ghislaine.
Bonjour.
Que pensez-vous du discours du docteur Le Foulon ?
Merci au docteur Le Foulon d'être intervenu, mais cependant je tiens à signaler que d'une part l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a reconnu la fibromyalgie en 1992, ce qui n'est pas rien. Après, nous avons eu droit au rapport de l'Académie de médecine en janvier 2007. Et après, en 2008, les recommandations du Parlement européen de Strasbourg aux États membres. Donc c'était déjà un progrès par rapport à quelques années. Et cette année, enfin en fin d'année 2010, la Haute Autorité de Santé, qui a fait un recueil malheureusement trop dense de 124 pages à l'attention des médecins pour les orienter pour une prise en charge multidisciplinaire de la fibromyalgie.
D'accord.
Donc la reconnaissance, elle est là, en quelques années, par rapport à ce qui existait avant.
Mais pourtant, certains médecins disent toujours que c'est psychologique.
Il y a une partie psychologique qui intervient aussi.
Oui, je suis d'accord, mais pas totalement.
Pas totalement. Ce n'est pas que de la psychologie. Ce serait trop simple. Si c'était de la psychologie, il n'y aurait plus de fibromyalgique.
Tout à fait. Êtes-vous pour la prise en charge non médicamenteuse ? Et si oui, pouvez-vous nous expliquer laquelle ?
Alors, la prise en charge non médicamenteuse est indispensable aux différents traitements médicamenteux prescrits. Mais ils sont toutefois une béquille pour que le fibromyalgique améliore son état, tant au niveau de la douleur que de la fatigue. Dans les traitements préconisés, sont souvent prescrits des antiépileptiques, mais surtout des antidépresseurs à très faible dose, afin de pallier au dysfonctionnement des neurotransmetteurs qui ne capturent plus la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Il faut savoir que les fibromyalgiques sont des êtres hypersensibles et c'est pour ça que les médicaments sont donnés à très très faible dose. Les anti-inflammatoires, la cortisone, la morphine n'ont aucune action sur la fibromyalgie. Cependant, à l'état actuel de la recherche, le médicament miracle n'existe pas à ce jour. Pourtant, certains médicaments sont délivrés aux États-Unis, au Canada. Mais en ce qui concerne l'Europe, il faut passer par l'Agence médicale européenne qui n'a pas validé ces traitements et qui sont pourtant prescrits par les médecins aux fibromyalgiques. Et alors là, je fais une parenthèse quand même sur des médicaments qui sont assez graves et prescrits, déviés de l'AMM. Je parle de la kétamine.
Oui.
La kétamine qui est souvent donnée aux fibromyalgiques sévères en perfusion, mais seulement la kétamine est utilisée dans les blocs opératoires comme anesthésiant. Et c'est un euthanasiant chez les vétérinaires pour les animaux.
D'accord.
Donc là, on arrive à un état grave. Et comme on parle du médiator, la kétamine est déviée de l'AMM du départ. Hein. Alors, dans les prises en charge non médicamenteuses, il s'est avéré que les cures thermales, ayant un programme spécifique, mais vraiment bien pointu, apportait une amélioration de l'état général, mais pas dans l'immédiat, parce que la première année, le fibromyalgique est très fatigué, très douloureux. Bon, il sentira le bienfait la deuxième année, la troisième année, ça peut aller jusqu'à 6 mois de repos.
Hein. D'accord.
Des douleurs. Hein. Il est important qu'un fibromyalgique aussi arrive à gérer le stress au quotidien. Et tout le monde subit des stress au quotidien.
Oui, tout à fait.
Alors, pour améliorer cette gestion de stress, parce que nous sommes en overdose de stress, on a la sophrologie, la relaxation, le yoga, la balnéothérapie avec une eau supérieure à 34 degrés.
Oui.
Ça, la balnéothérapie, c'est conseillé régulièrement toutes les semaines.
D'accord.
La kinésithérapie, l'ostéopathie, l'acupuncteur chez certaines. Et certains fibromyalgiques, et la prise en charge par un thérapeute comportementaliste pratiquant la TCC, thérapie cognitivo-comportementale.
D'accord.
Ce qui permet de gérer au quotidien les événements stressants que l'on peut avoir dans la vie courante. Bon, la stimulation transcrânienne a déjà été testée chez les personnes dépressives et apparemment a de bons résultats sur certains fibromyalgies, mais nous sommes encore à l'état d'essai, donc mais c'est une solution. L'électrostimulation, le TENS, qui est prescrit par les centres antidouleurs, hein, donc suivant certaines pathologies, ça arrive à bien soulager. La musicothérapie, parce qu'on sait très bien que la musique, ça fait évader le cerveau, n'est-ce pas? Et la méditation aussi, donc il y a des tas de choses, hein. Mais alors, le principal, c'est qu'un fibromyalgique ne doit pas rester inactif.
Non.
Bon, on peut dire, on a mal, on a mal. Eh bien, si on a mal, on prévoit quand même d'aller faire quelque chose, d'aller faire un petit tour dans de la verdure. On prend du paracétamol avant, il y a un antidouleur. Et puis, ben, après, on se sent mieux, on va s'oxygéner parce que les muscles manquent d'oxygénation également.
Mais on peut quand même s'accorder une journée au lit si vraiment ça ne va pas.
Ah ben quand ça ne va pas, oui. Mais il ne faut pas passer toutes ces journées au lit.
D'accord.
Moins on en fait, moins on peut en faire.
D'accord.
Et les muscles, comme c'est une maladie neurotendino-musculaire, nos muscles se rétractent. Donc nous avons des tendinites chroniques, d'où l'utilité de faire des étirements, même presque tous les jours, pour étirer ces muscles, ces fibres qui sont complètement rétractées.
D'accord.
Donc ça, c'est très important. Donc, quand le fibromyalgique reste trop longtemps inactif, il rentre dans une spirale de descente aux enfers.
D'accord.
Étant donné que il a mal, il a encore plus mal parce qu'il ne bouge pas. Donc, il va rester de plus en plus couché. Donc, là, ça ira encore moins bien, quoi. Hein.
D'accord. Pensez-vous qu'un diagnostic précoce est important?
Oui. Et de ce côté-là, avec ce que j'ai cité auparavant, l'OMS, l'Académie de médecine, la HAS, le diagnostic est fait plus précocement. Et c'est un procédé, comme a dit le docteur Le Foulon, d'élimination de certaines maladies comme la sclérose en plaques, la spondyarthrite ankylosante. Et il faut savoir aussi que les fibromyalgiques ont souvent des maladies auto-immunes qui viennent se greffer. Donc, c'est des doubles pathologies. Et pour les médecins, c'est pas toujours facile à diagnostiquer. Mais il faut savoir que les médecins ont des nouveaux outils à leur disposition. Bon, avant, il existait tout simplement par les rhumatologues les points de Vénus, les fameux 18 points qu'on appuyait avec la pression du doigt. Maintenant, il existe des questionnaires qui ont été faits par l'American College of Rheumatology, qui sont mis à la disposition des médecins, tels que le FIQ, ELF, FIRST, mais enfin, ça, c'est des noms techniques, mais aussi des échelles d'évaluation de la douleur.
Oui.
Où pour le patient, c'est beaucoup plus parlant de dire, ben voilà, sur 0 à 10, je me trouve à quelle échelle. Donc ça, c'est, ça n'était pas utilisé par les médecins avant. Hein. Donc, voilà.
Que dit le rapport de la HAS et qu'est-ce que c'est ?
Alors, le rapport de la HAS, c'est ce que j'ai dit, c'est la Haute Autorité de Santé. Il a été publié en octobre 2010. Donc, il est venu compléter le rapport de l'Académie de médecine de janvier 2007 suite aux interventions des associations nationales, parce qu'on trouvait qu'il fallait aboutir sur autre chose. Et ce rapport de la HAS préconise donc toutes les approches multidisciplinaires qu'il faut apporter aux patients, parce que s'il reste qu'avec des médicaments, ça ne suffira pas. Donc, il faut vraiment étendre. Et là, ce sont des choses qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale ou d'autres choses prises en charge partiellement. Mais il faut aussi que le fibromyalgique se prenne en charge. Et donc, la HAS oriente faire cette prise en charge multidisciplinaire. Cependant, ce rapport est tellement dense avec ses 124 pages. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de médecins qui l'ont lu entièrement. Donc là, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas fait une synthèse plus restreinte. Alors, un fibromyalgique qui est pris en charge rapidement, il arrive à gérer sa fibromyalgie, mais quelqu'un qui n'est pas géré bien, qui n'arrive pas à être écouté par le médecin, peut voir son stade de santé s'aggraver. Donc, il existe plusieurs stades. Le stade 1, bon, c'est réversible parce que le malade, il souffre, mais il peut vivre toujours une vie quotidienne à peu près normale. Le stade 2, la maladie est déjà très, très bien installée et le quotidien est très difficile. Et puis, alors là, on commence à avoir des relations socio-professionnelles et familiales très difficiles parce que l'entourage a du mal à comprendre. Donc, il faut y arriver à stopper ce stade. Et le stade 3, le malade peut devenir dans une phase invalidante. Et les personnes qu'on voit en fauteuil roulant, ce sont des personnes qui n'ont pas été prises en charge correctement, malheureusement. Et nous, en tant qu'association nationale, nous luttons pour ça, quoi.
Quel est le rôle de votre association Fibromyalgie SOS ?
Ah oui, eh bien, Fibromyalgie SOS est là pour écouter les malades, écouter les fibromyalgiques. Les écouter comment ? Ben, grâce à notre permanence téléphonique qui est tenue 7 jours sur 7 de 10h à 23h au 0820 220 200. Mais cette permanence, je tiens à le souligner, elle est tenue uniquement par des bénévoles, des fibromyalgiques atteintes et donc qui donnent de leur temps. Parce que souvent, les gens appellent en disant « Ah oui, mais vous ne savez pas ce que c'est que la douleur, j'ai affaire à une plateforme téléphonique. » Et non, madame, et non, monsieur, ce n'est pas une plateforme téléphonique, ce sont des fibromyalgiques qui comprennent à même le vécu des personnes qui appellent.
Oui.
Donc là, c'est très important. Alors, de ces appels téléphoniques, c'est vrai que nous n'avons pas pu, en tant qu'association, nous payer un numéro vert. Donc, nous avons un numéro Indigo qui est à 0,09 centimes la minute. Donc, pour minimiser les coûts des personnes qui appellent, l'hôtesse prend le nom de la personne, son numéro de téléphone et la rappelle. Donc, comme cela, ça coûte très, très peu à la personne qui appelle. Et donc, elle peut appeler de 10h à 23h.
D'accord.
Et un compte-rendu est fait après chaque appel pour la cellule téléphonique et la Nadine, la présidente, ainsi que moi-même. Et nous lisons tous les appels téléphoniques tous les jours et nous donnons des conseils et nous réagissons sur les suites à donner sur les appels. Mais il y a une confidentialité de tous les appels. Les autres bénévoles de l'association ne l'ont pas. Nous faisons aussi des aides administratives avec des courriers au MDPH ou aux médecins de sécurité sociale ou à la médecine du travail. Et donc, on est là pour soutenir, écouter et apporter un soutien permanent aux différentes questions des fibromyalgies, dont certains sont dans une incompréhension totale avec tout leur entourage, tant familial que oui. social et professionnel, et malheureusement perdent leur emploi, et là c'est gravissime.
Justement, vous parliez d'un compte-rendu après chaque appel. Qu'est-ce qui contient ce compte-rendu ?
Alors, si la personne veut nous donner son nom, son prénom, nous notons son numéro de téléphone, c'est indispensable pour la oui. rappeler, son âge si elle le souhaite, mais il n'y a pas d'obligation. D'accord. On demande, c'est dans la conversation oui. qu'on dirige l'objet de son appel. Des fois, c'est tout simplement pour connaître l'association,
oui.
pour connaître notre fonctionnement ou pour connaître comment se diagnostique la fibromyalgie, des détails sur la maladie. Si on veut, ils cherchent aussi des adresses de médecins. Nous, en tant qu'association, nous avons le label OnCode tant pour le forum que pour le site.
Oui.
Nous n'avons pas le droit de donner d'adresse de médecin, mais nous dirigeons toujours les fibromyalgies vers les services de médecine interne des hôpitaux qui sont les plus aptes à diagnostiquer et à essayer d'aider les fibromyalgies, et les centres antidouleurs aussi.
D'accord.
Donc, voilà. Et puis, ben, s'il y a des questions bien pointues, par exemple pour une MDPH ou, oui. ou une relation avec un tiers. Moi, je me suis vue une année, une dame, et je fais une petite parenthèse là. Elle était au bord du suicide. Elle avait préparé son bain et une lettre à ses trois enfants. Et elle voulait se sectionner la carotide.
Oui.
Et j'étais de permanence, je faisais encore des permanences à ce moment-là. Et avec le soutien, l'écoute téléphonique, je me suis engagée en tant que personne, Ghislaine Baron, et oui. non pas l'association, à contacter ses enfants à oui. titre personnel pour leur expliquer ce qu'était la maladie.
Oui.
Et d'ailleurs, si elle écoute l'émission, elle va se reconnaître. Hein. Et ben, ses enfants ont découvert ce que c'était que la maladie. Et ils ont réalisé que ce n'était pas dans sa tête et qu'elle souffrait vraiment. Et maintenant, pour son anniversaire, elle lui a acheté un ordinateur. Et elle revit. Elle m'a dit que ça a été une renaissance. Et moi, j'en étais malade pendant 3 jours pour savoir si elle n'était pas passée à l'acte.
D'accord. Hein.
Donc, on a un rôle social très, très important oui. à jouer. Hein. Et je suis contente d'avoir tendu la main à quelqu'un.
Oui, tout à fait.
Donc, quand on parle des plaisirs, ben ça c'est un plaisir aussi. Oui. Hein, d'aider les autres, c'est un plaisir.
Tout à fait. Hein,
c'est un don de soi qu'on fait aux autres.
Oui. Ne faut-il pas rompre l'isolement ?
Alors si, parce que le fibromyalgique, schématiquement on dit il est tout le temps en train de dire j'ai bobo ici, j'ai bobo là, je ne peux pas faire et tout. Bon, on dit oui, t'as bobo, mais nous, on a créé au sein de l'association une liste de contacts
oui.
que nous éditons 2 fois par an, une en avril, une en octobre. Et cette liste, elle est classée par département.
D'accord. Bon,
les personnes qui veulent donner leurs coordonnées peuvent les donner. Ça n'est diffusé qu'aux adhérents.
Oui.
C'est pas du tout. Et puis, on veille vraiment si quelqu'un, s'il y a un fibromyalgique qui vient embêter un autre fibromyalgique, on nous le fait remonter et on raye cette personne oui. de la liste. Elle n'aura plus jamais la liste.
Hein. Oui.
Donc là-dessus, il y a un contrôle. Et c'est là qu'on peut savoir qu'avec cette liste de contacts, dans une même ville, il y a peut-être quelqu'un qui a la fibromyalgie 3 rues plus loin que nous.
D'accord.
Et qu'on ne savait pas, parce que ça ne se voit pas sur oui. nous. On nous voit, on a l'air d'être en bonne santé, on garde le sourire et oui. tout. Et donc, et là, cette liste de contacts, soit par mail, soit par téléphone, pour les personnes qui donnent leur numéro de téléphone, on peut rentrer en contact. Et là, c'est important, parce que autant en tant qu'association, nous ne pouvons pas donner de nom de médecin
oui.
ou de kiné ou autre que ce soit, mais les patients entre eux, après, ça crée un groupe d'amis, de relations, d'aide. Donc, quelqu'un qui est un bon médecin, lui, il comprend bien la fibromyalgie. Peut-être que je vais aller le voir.
Oui,
voir ça donne un autre aspect. Donc, cette liste de contacts, elle est vraiment indispensable pour lier les fibromyalgiques entre eux. Mais ça peut être d'un département à un autre.
Oui.
Hein. Mais nous avons aussi notre site qui est labellisé OnCode comme le forum.
Oui. Pour nos auditeurs, pouvez-vous préciser ce que c'est le OnCode?
Le OnCode, c'est un label de qualité, de sécurité au niveau d'Internet. D'accord. Pour tout ce qui est au niveau de la santé. Alors, l'adresse de notre site, c'est www.fibromyalgiesos.fr. Et nous avons notre forum www.forum.fibromyalgiesos.fr. Ou alors là, le forum, il est ouvert à tous les sujets.
Oui.
Tant sur les sujets de la maladie, mais c'est pas parce qu'on est fibromyalgique, c'est pour ça que la partie psy est importante,
oui,
qu'on ne parle que de la maladie sur le forum. On peut aussi bien parler de radio, de cinéma, de télé, de couture, de cuisine. Il y a des très très bonnes recettes de cuisine, oui, sur le forum. Donc, des tas d'autres choses qui ne sont pas liées à la fibromyalgie. Mais on apporte aussi du soutien aux malades pour les questions des fibromyalgiques.
Oui, tout à fait.
Ceux qui n'ont pas Internet peuvent aussi bénéficier de notre soutien, puisque nous envoyons, je suis en même temps la secrétaire et je fais des comptes rendus de toutes les conférences où je vais et réunions. Et tout ce qui est fait par Internet, nous l'envoyons en compte rendu par mail à nos adhérents. Mais autrement, ceux qui n'ont pas Internet, on leur envoie sur papier.
D'accord.
Alors, il faut savoir qu'actuellement, nous avons à peu près 80 personnes sans Internet,
oui,
mais elles reçoivent exactement les mêmes informations.
D'accord. Est-ce important de se faire plaisir, comme en faisant de la radio, en lisant, ou toute autre chose qui puisse être important?
Alors là, le plaisir est le plus important, et je crois que c'est une nouvelle orientation dans la prise en charge de la fibromyalgie. Parce qu'il est vrai que lorsque nous ne sommes pas bien, que nous sommes trop cantonnés entre malades et à ne parler que de la maladie, on ne peut pas tellement aller mieux.
Oui. Hein.
Mais par contre, aller mieux, comme toi Stéphanie, qui aime bien la radio,
oui,
ça c'est un réel plaisir pour toi.
Oui.
Donc le moindre petit plaisir est important. Comme a dit Janine tout à l'heure, écouter les oiseaux, faire une petite marche au bord d'un lac, tout ça, ça est important. Parce que à chaque fois qu'on se fait plaisir, on fabrique de l'endorphine qui est le meilleur antidouleur. Donc c'est nettement mieux que les médicaments.
Tout à fait.
Alors ce que je suggère souvent dans les échanges que j'ai dans les cures thermales, c'est de prendre un petit carnet, de le partager en deux, sur un agenda, par exemple, c'est très bien. D'un côté, on met ce qui est mauvais, et d'une autre couleur, si on peut, on met ce qui est bien. Et donc, tous les jours, vous verrez que vous aurez des petits plaisirs, les fibromyalgiques. Et il faut, de temps en temps, regarder tous les petits plaisirs que nous pouvons avoir. Et là, quand ça va très très mal, il suffit de regarder ce carnet, et on peut se dire, mais tout compte fait, j'ai eu beaucoup de petits plaisirs par rapport à la douleur. La douleur est là, mais les petits plaisirs arrivent à renforcer le bien-être qu'on a par rapport à notre mal-être de la douleur.
Tout à fait. Est-ce vrai qu'il ne faut pas toujours rester dans la maladie?
Eh ben oui, c'est ce que j'ai dit,
oui,
parce que de toute façon, il faut en sortir et il faut échanger. Et on arrive ainsi à une certaine harmonie entre le psychisme et le corporel. Comme a dit le docteur Le Foulon,
oui,
il y a un impact du psychisme sur le corps. Donc, c'est vrai qu'il est très difficile de dire si on peut accepter une invitation ou pas. Maintenant, il faut que l'entourage familial ou les autres personnes acceptent. On dit oui, sauf si je ne vais pas bien. Donc, c'est toujours sauf que. Et puis, à la dernière minute, et bien, si on ne peut pas venir, on ne vient pas. Il ne faut pas se sentir coupable.
Tout à fait.
Hein. Tous les fibromyalgiques souffrent plus ou moins, mais plus la personne bouge, moins elle va souffrir. Et avant chaque activité, il faut penser prendre un antidouleur.
Pour conclure, je dirais que la fibromyalgie n'est pas la maladie du siècle, puisqu'elle date des années 1840, qu'il faut extérioriser sa douleur, que le médicament n'existe pas et que la relation patient-médecin est importante, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. C'est une maladie qui se passe dans le cerveau avec ce dysfonctionnement des neurotransmetteurs, mais ce n'est nullement une maladie psy. D'ailleurs, le professeur Blottmann, éminent médecin du CHU de Montpellier, spécialisé dans la fibromyalgie, cite souvent la population des Mormons, qui est loin d'être une population très industrialisée et aidée socialement, ou au contraire de certains pays, mais qui a un fort taux de fibromyalgie dans sa population. Donc ce n'est pas la maladie du siècle, comme certains le disent. Par contre, le stress permanent qui est présent dans le domaine du travail, je ne voudrais pas citer le nom de certaines entreprises, n'est-ce pas, peut conduire inévitablement à des futures fibromyalgiques lorsque le corps humain aura atteint cette overdose de stress. Le vase déborde, c'est une image symbolique, et la maladie est malheureusement installée.
On arrive en fin d'émission, donc je vous remercie à toutes les trois d'être venues. Et Ghislaine, je vais vous laisser le mot de la fin. Alors avant, je tiens à signaler que samedi prochain, vous retrouverez Jérôme avec des étudiants au service des prisonniers, qu'à 13h, vous aurez l'émission VIP avec Florent et Guillaume, et qu'à 14h, moi, je vous retrouve pour une spéciale sur les maladies mitochondriales. Alors, Ghislaine, je vous laisse le mot de la fin. Merci.
Alors, oui, vous êtes fibromyalgique, vous pensez l'être, ne restez surtout pas seule. Les associations sont là pour vous aider et vous renseigner. Vous venez vous de commenter sur notre site, gage de sérieux avec son label OnCode, pour les sites internet de santé, www.fibromyalgie-sos.fr. Merci à toute l'équipe pour cette invitation, au docteur Le Foulon et à nos deux fibromyalgiques qui nous accompagnent pour cet agréable moment passé ensemble.
Merci beaucoup. Tout de suite, la suite de nos programmes sur le 96.2 FM. Au revoir.